Bonjour et bienvenue dans Certains LMA Show, l'émission qui s'envole avec les films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Aujourd'hui dans Claque,
Les Hirondelles de Kaboul,
Fête de famille,
Wedding Nightmare,
Andy, Inséparable. Quel beau programme. Un beau programme, mais un programme éclaté. Car même si on parlera de fête de famille, la famille de Claque est un peu dispersée, hasard du calendrier oblige.
Ouais, c'est vrai qu'en effet, là, j'ai l'impression que chacun est allé voir ses petits films dans son coin. Il y a de la distanciation, là, donc là, qu'il y a de la tension. Mais que se passe-t-il?
Ouais, c'est normal, on grandit, et en grandissant, les enfants s'en vont de leur côté. Il y en a même un qui va faire un épisode spécial à Deauville dans le week-end. Non, je déconne. On commence tout de suite avec un dessin animé.
J'aimerais te renseigner, mais... je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école. Une école secrète. Où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi.
Mais c'est merveilleux.
Imagine, éduquer des enfants à être libres.
Oh là là, j'étouffe là-dessous.
Attends, je vais t'aider.
Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop.
Chut, tu vas aller à la mosquée, j'ai écouté le prêche, moi la bachir. Ça te remettra les idées en place.
Je dois amener mon épouse chez ses parents.
Qu'est-ce que tu as?
On m'a amené une nouvelle prisonnière.
Et alors?
Et alors? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelet devant moi.
Tu lui as parlé?
Non.
Les Hirondelles de Kaboul, un film de Zabou Breitman et Elea Gobe-Mevelek, d'après un roman de Yasmina Kadra. Un film d'animation avec en doublage Simon Apkarian, Zita Aaron, Swan Arlo, il y a même Pascal Elbé et Michel Jonas qui viennent faire coucou. Et pour parler de ce magnifique film d'animation, c'est très joli quand même, faut dire ce qu'il y est. J'ai avec moi, Karl, hein, le classique. Salut Karl.
Salut. Pourquoi tu me décris comme un sandwich de McDo, le classique?
Et une nouvelle voix dans l'émission, Sophie, des dés ne sont pas jetés. Salut Sophie.
Salut Thomas.
Les Hirondelles de Kaboul, donc c'est l'histoire de Zunaira qui vit à Kaboul sous les talibans, et c'est pas facile quand on aime la musique et le dessin et qu'on a plutôt soif de liberté. Mais en dépit de la violence et de la charia qui est appliquée dans la ville, elle vit heureuse avec son mari Mohsen, ancien enseignant à la faculté. Et en fait, je m'aperçois que plus j'y vais, en fait, plus c'est très long à démarrer, parce qu'en fait, le véritable start de l'histoire, c'est quand elle est mise en tôle et qu'elle tombe sur le geôlier, quoi.
En fait, la bande-annonce est bien faite dans le sens où il y a deux ou trois twists qu'on ne voit pas, mais elle est mal faite dans le sens où, à part ce twist, elle raconte le film. D'ailleurs, une fois qu'on a vu le twist, on comprend exactement tout ce qui va se passer. Et donc, ouais, ça met du temps à démarrer parce que ça veut moins raconter une action que raconter une situation. Une action, c'est plus fun à raconter sur 1h20 qu'une situation. Après, c'est magnifique, hein. Mais c'est vrai que c'est important qu'on s'attache aux personnages, surtout dans ce film, on va pas spoiler pourquoi. Mais on a compris au bout d'un moment. C'est la base du film, mais on a compris que la charia applique des lois sexistes. C'est pas la peine de le rappeler dans chaque phrase et dans chaque plan. Mais quand tout le film est là-dessus et que, on raconte aussi l'espoir de certains habitants et tout, mais... on tourne assez rapidement en rond.
Alors moi j'avais envie de voir ce film parce que j'avais vu, je crois que c'était l'année dernière, Parvana, une enfance en Afghanistan. Donc c'était un autre film d'animation un peu sur un autre style mais qui racontait, vraiment on était aussi plongé dans un Kaboul pas très joyeux, à peu près sous ce même type de problématique. Et du coup j'étais intéressée par le traitement que ce film d'animation allait apporter à la question. Oui, je rejoins Karl à propos de la bande-annonce, parce qu'on y voit globalement tout ce qui s'y passe, sauf une scène où en fait j'ai l'impression que elle n'a pas été mise, où effectivement j'ai été surprise en voyant le film d'animation, donc il y a quand même un minimum de suspense là sur le côté narratif. Mais sinon, au début j'ai été assez dérangée par les voix, et je me suis demandé si c'était pas parce que c'était en français, tout d'abord, où du coup j'avais une espèce de distanciation, enfin d'effet de distance entre ce qui était représenté à l'écran et ce que j'entendais. Et puis après je me suis rendu compte que c'était en fait bien trop littéraire pour ce qui s'y passait, quoi.
Oui, alors on a un procédé particulier. Alors on a eu la réalisatrice qui explique un peu comment ça s'était passé. Les réalisatrices. Alors je dis la réalisatrice parce qu'effectivement elles sont deux. Alors il y a Zabou Breitman et Elia Gobé-Mévelec. Il y en a une qui s'est occupée de toute la partie animation et Zabou Breitman s'est plus occupé de l'aspect scénario-dialogue. Au lieu d'avoir des acteurs qui vont parler sur les dessins et qui vont essayer de se coller à ce que disent les personnages, ici c'est l'inverse, les dialogues ont été enregistrés avant que l'on dessine, pour que ça colle plus au dialogue. Et du coup on se pose la question, pourquoi est-ce que ça sonne aussi peu naturel? Parce que c'est très 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 littéraire. Alors ça vient pas du doublage des acteurs qui sont tous excellents je trouve, c'est juste qu'ils parlent comme dans un bouquin. Alors, bon, je préfère ça plutôt que des dialogues très plats et très vides, mais du coup, on a du mal à se projeter et à y croire à ce film, qui est pourtant sublime. On a du mal à croire à ces situations. Pourtant, le dessin se veut immersif, et le dessin l'est. Mais le dialogue nous sort du film tellement il est surécrit, et tellement on se dit, attends, mais personne dans la vraie vie parle comme ça. Ou alors, ils parlent tous en arabe littéraire, et c'est retranscrit comme ça. Enfin, je sais pas, mais ça, après, c'est très curieux.
Après, moi, ce que je me faisais comme réflexion, c'est que comme Zabou Breitman est pas mal, un certain nombre de comédiens sont aussi en un pied dans le théâtre, et ont peut-être l'habitude de jouer des trucs un peu plus d'un autre style.
Il y a deux ou trois de la comédie française dans le cast.
Voilà, peut-être que ça vient de là aussi, quoi. Que c'est peut-être un parti pris ou pas, ou enfin.
C'est vrai que ça fait théâtral un peu.
Non, mais il y a une volonté littéraire. C'est un peu comme dans Le Hobbit où tu avais des dialogues qui étaient écrits par l'équipe du film et tu avais des dialogues qui étaient repris directement du bouquin et ça sentait très clairement la différence. Et là, pareil. Par moment, il y a des discussions qui sont absolument banales, et ça marche très bien. On voit vraiment juste la vie de ces gens. Alors d'ailleurs, on n'a pas fait. Alors c'est deux couples. Alors celle qui va être prisonnière et son mari, et le geôlier et sa femme qui a un cancer. Le geôlier, c'est un vétéran et de la guerre des talibans et de la guerre contre les Russes. Voilà. Et donc ils ont tous un langage super fleuri qui, au bout d'un moment, ne passe plus parce que on te lâche un monologue de philosophie de 5 minutes et c'est intéressant et c'est joli, mais ça ne te fait pas croire que ce sont un mari et sa femme qui discutent. Et d'ailleurs, tu m'y as fait penser en le disant, je suis pas sûr d'être fan du fait que les seuls mots qu'on entend en arabe sont « Allahu Akbar » pendant une lapidation. Tout le reste est en français, il y a juste ces moments-là qui sont en arabe.
Il y a les prières aussi.
Je crois qu'il y a d'autres, quand même deux, trois mots qui sont en arabe, mais qui sont genre des salutations comme ça, des gens comme ça.
J'ai même pas entendu, tu sais, un salam alaikum, tu sais, comme fait Chaplin dans Monsieur Verdoux, où bah, ils parlent en anglais parce que c'est américain, mais ils disent bonjour, au revoir, merci.
Non, si, des fois ils lisent leurs prières, ils ont le bouquin, ils lisent en arabe aussi.
Ah, peut-être. Mais j'ai été perturbé par le fait que le muezzin fait la prière en français aussi. À Kaboul, à mon avis, c'est pas les plus fréquents. Parce que sous la charia, il n'y a même pas de débat de français ou latin qu'il y a eu dans l'église française. Hein, ça, c'est mort. Hein, c'est arabe ou arabe.
Alors, après, pour défendre le film, j'allais dire descendre. Oh là 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 là. Le lapsus qui tombe. Non, après, moi, je me posais des questions sur l'intérêt de l'animation dans ce film. Parce que finalement, on a des scènes très très réalistes. On n'a pas tant besoin de l'animation parce qu'on ne s'en sert pas des masses. Mais en y réfléchissant, là, il y a deux, trois points. Déjà, pour filmer Kaboul, déjà, c'est quand même plus pratique parce que, bon, c'est un peu compliqué en ce moment.
Il y a quelques effets avec des personnages qui se transforment, par exemple, des sauts dans le temps qui se font en pouvant juste faire bouger les lignes pour qu'on voit une évolution. Mais c'est vrai que c'est pas tant dans l'animation. Moi, je l'ai surtout vu dans l'utilisation des couleurs pour diriger le regard. Les décors, enfin, les fonds sont très pastels. Il y a même des moments où c'est quasiment du papier blanc, quoi. Avec certains traits qui sont volontairement oubliés et ça force le regard avec un procédé qu'on n'aurait pas pu faire avec du live. C'est pas tant dans l'animation que dans les choix graphiques.
Après, je trouve que ça colle bien justement avec ce qu'on disait, ce texte littéraire. Parce que comme c'est un effet très pastel, on a l'impression de voir un livre d'images un peu et ça collerait avec cette idée de dialogue de livre finalement, parce que ça serait un livre d'images qu'on tourne et qui défile sous nos yeux, une sorte de conte. Donc c'est peut-être volontaire aussi d'avoir gardé ces dialogues littéraires.
Après, je trouve que le conte, là, il passe pas trop. Parce que justement, quand je repensais à Parvana que j'ai vu l'an dernier, où il y a aussi, bon, dans l'histoire qui se passe, il y a aussi une histoire dans l'histoire. Et là, ça prend, là je trouvais que ça épousait vraiment toute la forme du conte, où il y avait vraiment des effets d'animation. C'était pas du tout le même traitement. Et là, je trouve pas qu'on soit dans cette ambiance-là.
Oui, alors là, il n'y a pas tant de fantastique et de contes de fées. Hein.
Il y a quelques métaphores, quelques symbolismes, mais c'est plus un ton conte de fées par moment. Bah, surtout quand on arrive avec... Il y a un personnage vieux fou, qui est un ancien Mollah. Et lui, il a ce côté un petit peu conteur, c'est un petit peu vieux sage, qui peut un peu ramener à cet imaginaire. J'ai bien aimé le traitement du perso du geôlier, notamment parce qu'ils l'ont plus inscrit dans l'histoire de l'Afghanistan, en le ramenant notamment à étant un Mujahideen de l'époque de l'invasion soviétique. Et donc en lui faisant une histoire qui, sans ayant à en développer trop, quand même assez riche et donne assez de complexité au personnage. Bon, même s'il y a plusieurs dialogues en mode « Mais enfin, tu te rappelles bien qu'on est meilleurs amis d'enfance !» Tu sais, le truc que tu ne dis jamais à personne parce que, bah oui, évidemment.
Mais enfin, mais tu connais la charia, alinéa 2, verset 3.
Oui, mec, je suis geôlier à Kaboul. Oui, je connais les bases de la charia. Je vois à peu près.
D'ailleurs, il y a des passages qui étaient un peu, moi, je trouve, qui me faisaient marrer d'absurdité. Enfin, qui me faisaient marrer. Non, ma situation n'est pas drôle, mais dans le sens où... Donc lui, il est geôlier dans une prison pour femmes. C'est le seul mec dans le bâtiment. Il n'a pas le droit de rester toute seule avec les filles enfermées. Du coup, y a des gardes, il y a des femmes gardes qui sont à côté de lui. Et donc c'est assez stupide, parce que comme le garçon ne peut pas vraiment côtoyer les filles, les hommes ne peuvent pas côtoyer les femmes, ça serait mieux, ça serait plus logique que la prison soit gérée uniquement par des femmes. Mais en fait, on peut pas, parce que comme ce sont pas des hommes, il faut un homme pour les surveiller, ils sont là. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Mais en logistique, c'est assez absurde. Du coup, le mec, il s'emmerde seul dans son bureau, il peut rien faire.
Il y a juste un détail qui n'est pas précisé dans le film. Je sais pas si tout le monde le connaît, c'est Zunaira dessine, et sur le mur de sa maison, elle dessine notamment elle et son mari. Et la charia interdit de représenter des humains. Donc c'est une autre interdiction qui n'est pas explicite. Mais en gros, c'est elle vit dans l'interdit, quoi. Elle vit dans un monde qui n'est pas celui de la charia.
On comprend que c'est interdit parce qu'on lui demande de baisser sa musique. Ses dessins sont cachés derrière des draperies. Et elle n'a même pas le droit de porter des chaussures blanches.
Les hirondelles de Kaboul, donc on conseille plutôt quand même mitigé ou...
Parce que bon, là, on a été très...
Visuellement, ouais. Mais après, niveau scénar et dialogue, c'est surtout là que ça pêche.
Je rejoins Karl.
Donc Sophie, c'est la première fois que tu viens dans l'émission. Présente-nous un peu ton podcast, Les dés ne sont pas jetés.
Alors, ça parle d'orientation scolaire, d'orientation professionnelle et surtout de moments de galère, de doute et de tous ces moments pas cool par lesquels on passe souvent. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un podcast dessus pour qu'on se tienne chaud. Voilà. Et pour lutter contre le déterminisme.
Merci Sophie.
Merci Thomas.
Merci Carl.
Merci Thomas.
Une hirondelle annonce le printemps. Le prochain film sera-t-il fleuri ? Suspense.
Bonjour.
Ah,
bonjour.
Ah, mais je vous attendais plus tôt.
C'est Rosita.
Je suis Vincent, le frère de Romain.
Enchanté.
Il est courageux de vous amener ici.
Allô ?
Maman, c'est moi, c'est Claire.
Tu restes où tu es. On vient te chercher, on vient tout de suite, hein.
J'ai pas de cadeau pour maman.
On s'en fout, le cadeau c'est toi.
Tu m'as tellement manqué.
Elle disparaît pendant 3 ans et quand elle revient, on doit se plier à ses 4 volontés. C'est pour ça que t'es revenu, pour récupérer ta thune.
Oui, absolument.
C'est indiscutable, on a de l'argent à Claire. Pour le montant, on verra.
Mais non, y a pas à discuter du montant. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses.
Aujourd'hui, tout petit comité, je suis avec Hera. Salut Hera.
Salut Thierry.
Alors, on est allé voir un film sur l'amour, un film sur l'amour entre parents, un film sur l'amour entre cousins, entre frères et sœurs. On est allé voir un beau film sur la famille. On est allé voir Fête de famille de Cédric Kahn.
C'était le premier Cédric Kahn que je vois.
Très bien. Bon, alors moi, je n'ai jamais vu de Cédric Kahn, donc comme ça, au moins, on est tous les deux vierges de cet auteur, ce qui est plutôt pas mal. Avec un beau casting, on a Catherine Deneuve, on a Cédric Kahn, on a Vincent Macagne, on a Emmanuel Berco. C'est l'histoire de l'anniversaire d'Andrea. Et donc, sa petite famille va se retrouver pour lui faire souffler ses bougies, lui faire son anniversaire le temps d'un week-end. Et on a un élément perturbateur qui débarque, c'est la sœur Claire, qui a disparu depuis 3 ans aux États-Unis et qui revient à la fois pour fêter l'anniversaire entre grands guillemets et à la fois pour bouleverser ce petit monde là. Que peut-on dire en amorce sur Fête de famille de Cédric Kahn.
Alors, Fête de famille, c'est un film très intéressant dans sa réalisation et dans sa narration. Plus le film avançait, plus je pensais que c'était une pièce de théâtre et que ça méritait d'être au théâtre, en fait. Parce que ça va partir d'instants de cohabitation familiale, donc avec toute la complexité des archétypes familiaux qu'on peut y trouver, à des moments plus hystériques, même très très hystériques, et à aussi des moments simplement de beauté pure et de contemplation. Très léger. Donc on va faire un tour entre les différents personnages de cette famille, donc les différents frères, sœurs, enfants, avec chacun leur caractère extrêmement bien défini, et donc avec cette arrivée de l'élément perturbateur, comme tu le disais, donc du personnage de Claire, joué par Emmanuel Berco, qui va venir revendiquer sa part dans la maison, sauf qu'on comprend pas très très bien qu'est-ce qui l'anime. Elle semble avoir des réactions quand même disproportionnées, et en même temps tout le monde trouve ça normal, donc très vite on est pris au jeu d'essayer de comprendre les différents caractères des personnages, avec leur complexité, leur part de folie, leur gentillesse parfois aussi, ou leur tendance à la déresponsabilisation. Donc c'est vraiment un voyage dans une famille classique, en fait. Je l'ai vraiment vécu comme ça, comme une fête au sein d'une famille lambda, avec chacun ses caractéristiques, et donc chacun, donc il y a un peu l'archétype du riche, de la personne un peu plus aisée dans la famille, du loser, entre guillemets, de la femme qui a peut-être eu un mode de vie un peu particulier qui plaît pas forcément à tout le monde, avec de la rancœur, ça se tire dans les pattes dans tous les sens, et en même temps il y a les enfants qui essayent qui sont juste des enfants, donc qui essayent de remonter un peu toute cette famille-là vers quelque chose de plus humain au final. Et ça donne une dynamique plutôt sympathique.
Ouais, mais d'autant que c'est vrai que quand le personnage d'Emmanuel Berco, donc Claire, arrive et commence à foutre un petit peu le boxon, c'est déjà plus ou moins le bordel entre eux, puisque c'est quand même une famille qui est très dysfonctionnelle. Sauf qu'au final, ce genre de famille dysfonctionnelle, comme tu le dis, c'est une famille lambda, banale. On a toujours ça, moi je me souviens des dîners de famille ou des repas que je peux avoir, j'en ai pas fait énormément, puisque bah, pareil, comme beaucoup de monde, j'ai pas la famille la plus fonctionnelle de la Terre, en tout cas dès l'instant que tu vas hors du cercle familial, les parents ou les gens vraiment très proches. On a le côté, forcément, les gens qui vont avoir réussi leur vie vont juger ceux qui n'ont pas réussi parce qu'ils pensent qu'ils sont là pour gratter. Ceux qui n'ont pas réussi vont juger ceux qui ont réussi parce qu'ils pensent qu'ils les prennent de haut. Donc on a toujours cette espèce de... déjà ça, c'est la première source, on va dire, toujours de conflit dans une famille, c'est l'argent. Quoi qu'il arrive, l'argent est toujours pris en compte. Là, en l'occurrence, il s'agit des parts d'une maison. Donc c'est très difficile aussi pour eux. Est-ce qu'on doit jeter les parents dehors sous prétexte qu'ils nous doivent de l'argent? Est-ce qu'on doit les laisser dans leur maison sous prétexte qu'ils y vivent? C'est compliqué. Et donc du coup, on a tous ces caractères. Donc moi, je pense surtout aussi aux frères. On a l'un des frères, celui qui est joué par Vincent Macaigne, qui est l'espèce d'artiste raté, drogué, notoire, qui se ramène avec sa nana, à qui il impose quasiment tout, et qui lui est encore plus dysfonctionnel parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à accomplir grand chose dans ce qu'il veut accomplir, mais qui s'acharne et qui est persuadé d'être un nouveau Van Gogh. Donc du coup, on a des phases de colère, on a des phases d'engueulade, on a des grosses phases de dialogue très senties, on a beaucoup de rancœur, comme tu le disais. Au début, tu vois, on avait tendance à se dire que c'est le personnage de Cédric Kahn qui était assez imbitable parce qu'il est toujours très cinglant, toujours dans le jugement et toujours à balancer des phrases qui sont quand même très peu mesurées. Sauf qu'au final, quand tu vois, sans le justifier et sans le pardonner, quand on voit le comportement des gens autour de lui, on se dit, si un mec a vécu avec des gens comme ça, on comprend aussi ses réactions. À la fois, on a envie de s'approcher de certaines de ces personnes, à la fois, on a envie de les fuir comme la peste. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir ce genre de famille. J'ai pas pour toi.
Non, pareil, c'est clair. Enfin bon, en même temps, je suis pas sûre qu'il y ait une seule famille qui soit vraiment parfaite et qui puisse être vraiment purement fonctionnelle. Là, ils ont tous... le paradoxe, c'est quand même, ils s'aiment tous énormément. Ils se soutiennent tous énormément dans une certaine mesure, mais parallèlement, ils vont quand même se lancer des piques et s'accuser dans tous les sens. Mais on sent... J'ai beaucoup ri sur le personnage de la mère qui est en totale déresponsabilisation la plus complète de tout, en fait. Non, mais écoutez, s'il y a des problèmes, on va pas s'en occuper, et puis je vais jamais les regarder en face à face. Et ça, c'est dit dans le film. Mais ce qui est surtout très agréable, dans la manière dont c'est narré, c'est que tout est montré. On parlait beaucoup ces derniers temps dans Claque de films où on nous montrait rien, où en fait on nous expliquait des choses par la parole, mais on nous montrait que dalle. Et ben là, pour le coup, c'est bien foutu parce que tout est montré. C'est un film qui parle de la folie sans être un film sur la folie. Et ça en fait pas son sujet principal, parce que le sujet principal, c'est vraiment le cocon familial et comment est-ce que il fonctionne et quelles sont les dynamiques. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait. C'est vraiment un fragment de vie. Il ne faut pas s'attendre non plus à énormément de rebondissements. C'est juste, on nous montre des scènes et une avancée de comportement et d'évolution au cours d'un anniversaire. Et c'est réussi dans cette manière que Cédric Kahn a de nous montrer ses différents personnages et leurs caractéristiques. Il n'y a rien de particulier en fait à retirer du film, il ne faut pas y aller pour trouver quelque chose. Il faut y aller pour voir un moment et voir comment tout peut partir en vrille et comment des choses qui peuvent sembler aberrantes peuvent sembler pour des autres complètement normales. Donc c'est aussi un film vraiment sur le point de vue. Parce que les différentes, la manière dont il se tire dans les pattes, et je t'ai senti réagir un peu comme moi, ils s'envoient des trucs dans la tronche, où clairement, moi, je me prends ça un jour, je parle plus jamais à ma famille, c'est mort. Bah, eux, ça va. Eux, ça va. Et donc, c'est un film aussi sur cette échelle-là de qu'est-ce que t'es prêt à accepter parce que c'est ta famille.
Enfin, même si on n'est pas forcément concerné par les sujets en question qui leur arrivent, mais ça peut forcément faire écho à quelque chose qu'on a déjà pu vivre. Une remarque de la part soit de nos parents, soit d'un oncle, soit de quelque chose. Moi, il y a des moments où je me disais, putain, ça, moi, j'ai pu le dire à quelqu'un. Et je me rends pas compte d'à quel point ça pouvait être méchant, mesquin et mauvais. Et quand je vois les réactions, je me dis, putain, pourquoi j'ai dit ça? Et où moi je me suis pris des trucs dans la gueule, où je l'ai pris de cette manière-là, mais la personne en face de moi ne l'a pas du tout compris comme telle, parce qu'elle part du principe que j'étais prêt à accepter ça, vu qu'il y a un lien de parenté ou qu'il y a quelque chose. Donc ouais, c'est fort à ce niveau-là, c'est fort parce que c'est aussi très mesuré, parce que même si on s'en prend plein la gueule, il y a quand même des moments de calme, il y a quand même des moments de beauté. On nous montre, comme tu dis, que c'est une famille qui s'aime, c'est vrai qu'on passe d'un moment d'hystérie où les gens sont vraiment prêts à se démonter la tronche, et tout à coup on passe à la pièce de théâtre que montent les enfants, avec le petit gamin au piano, et tu fais bon. Là, c'est un moment calme, c'est mignon.
Voilà. C'est beau d'ailleurs.
Et c'est plutôt beau, ouais. Et c'est fort au niveau de l'écriture, parce que du coup, les dialogues sont toujours mis au poil. Et c'est fort dans ce qui est demandé aux comédiens, je trouve. Tu me disais par exemple, à un moment, on avait Emmanuel Berco qui était en train de hurler dans tous les sens, et tu me dis, il n'y a que Emmanuel Berco pour jouer des hystériques. D'un autre côté, je me disais, là, il l'a quand même poussé dans des retranchements où vraiment, bon, il a exploité tout ce qu'il pouvait faire avec, quoi.
Elle avait fait Mon Roi, hein, il n'y a pas si longtemps, et Mon Roi, elle avait déjà des scènes de grosse, grosse hystérie, mais là, elle se démène encore plus loin, vraiment encore plus loin, ça va, elle est à des niveaux où, au départ, on peut penser qu'on est dans l'excès en termes de comportement, on se dit, ah ouais, quand même, là, il a peut-être poussé un peu loin au niveau du scénario, en fait, non, pas du tout, il n'a pas du tout poussé loin au niveau du scénario, c'est totalement possible de voir ce type de comportement dans la vie réelle et ce niveau d'hystérie-là. Et c'est un sacré truc demandé aux acteurs. Ils sont tous très très bien tirés.
Je trouve qu'il exploite des archétypes chez ces acteurs. Par exemple, McCain, c'est un petit peu toujours le mec un peu lunaire, voilà, qui est toujours un petit peu dans son monde, mais qu'il l'exploite très bien. Il a compris ce qu'il pouvait faire avec eux. Il s'est dit qu'il n'allait pas forcément les sortir de la zone de confort, mais qu'il allait creuser cette zone justement pour montrer qu'on pouvait aussi atteindre des extrêmes dans ce qui pour eux est censé être des facilités. Et du coup, il y a de la performance tout du long, et sans que ce soit de la performance extrêmement tape à l'œil, à part vraiment à certains moments, et c'est des moments qui sont logiques et qui servent la narration, on est toujours, c'est toujours mesuré, c'est toujours logique, il n'y a jamais aucun moment où on se dit ça y est, ça part dans une sorte de monologue dégueulasse. C'est tempéré, c'est modéré, c'est très très bien écrit. Je ne sais pas si ça s'est inspiré de quelque chose, mais en tout cas, enfin, si c'est inspiré d'un bouquin ou quoi que ce soit. Mais si par contre il s'est inspiré de sa vie, je ne souhaite pas rencontrer la famille de Cédric Kahn tout de suite. Donc si jamais on le rencontre un jour et qu'il m'invite, je me renseignerai un petit peu sur les gens qu'il va y avoir à table.
Ouais, mais il y a du poulet en croûte.
Alors donc non. Non, quand il n'y a pas de gros blockbusters américains, il n'y a pas rien au ciné. Il y a des super choses. Il y a par exemple Fête de famille qu'on vous conseille vivement. Moi j'ai passé un super moment, même si c'est un film qui est très austère, hein, dès le début tu sens que tu vas pas non plus, tu sens que tu vas pas te poiler en te tenant le ventre, mais tu sens que tu vas vivre un moment fort, et c'était un moment fort, et là-dessus je suis assez ravi.
Ouais, même chose, c'est effectivement pas un moment fort, faut pas non plus y aller en se disant tiens je vais voir le film de l'année et faire des grosses découvertes, etc. C'est assez classique, mais c'est un bon film français. Et c'est cool d'avoir des bons films français qui sont pas des comédies à la con qu'on va voir par dépit. Là, on a été voir avec plaisir et on en est ressorti content.
Voilà, tout est dit. Bon, Hera, par contre, il y a un souci là. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de lorgner le micro. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux présenter, c'est ça?
Bah, je pense que c'est un peu à mon tour de présenter Clac maintenant. Y a pas Thomas.
Bon, allez. Allez, d'accord. Une fois.
Hein. Ouais.
So, at midnight, you have to play a game.
Why?
It's just something we do when someone new joins the family.
A game. What game? Hide and seek? Are we really gonna play that?
Well, the rules are simple. You can hide anywhere
we then try to find you.
So there's no way for me to win, right?
I mean, stay hidden till dawn.
No, thank you.
Good luck. What the hell is this? How old is this thing?
I know you're in here.
Oh, Jesus, you shot the maid.
Petit aparté. Thierry, tu viens d'aller voir Wedding Nightmare, le titre original étant Ready or Not. Réalisé par Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett, avec Samara Weaving, Adam Brody et Andy McDowell. Alors, c'était comment ce cauchemar de mariage ?
Alors, c'est assez marrant parce que je pense que c'est le film que j'attendais le moins cette semaine. Et c'est probablement celui devant lequel j'ai passé le meilleur moment. Je pense que celui-ci, il arrivait tellement de nulle part et j'y suis allé en me disant « ça va être affreusement nul » que je suis sorti de là avec une énorme banane. Donc c'est l'histoire de Grace qui va rencontrer la famille de ses beaux-parents pour son mariage en fait. Donc elle n'a jamais rencontré ses beaux-parents avant, les parents de son mari Alex, qui lui dit « voilà, ma famille est assez spéciale mais tu vas les rencontrer, on va se marier et on va faire une tradition familiale ». La tradition familiale étant de jouer à un jeu. Donc il lui raconte que l'arrière-grand-père de la famille avait fait un pacte avec un gars, on n'en dit pas plus, en mode bah, à chaque fois que quelqu'un doit rentrer dans la famille, on doit jouer à un jeu, sinon on a un gage. Elle a donc une petite boîte avec une carte qui tout à coup va lui donner un jeu, et le jeu est le jeu de cache-cache. À partir de là, tout le monde commence à flipper et se dit « ok, c'est pas normal qu'elle ait tiré cache-cache, mais c'est comme ça ». Donc elle, elle capte pas, donc il lui explique, il fait « bah tu dois te cacher toi, et nous on doit te trouver ». Elle part se cacher dans le manche-plat et tout à coup, toute la famille commence, enfin, alors qu'ils ont mis une chanson sur un vinyle qui compte jusqu'à 100, ils commencent à tous sortir des armes. Donc le principe est qu'en gros, ils doivent la buter avant l'aube parce qu'en gros, elle est tombée sur une famille de tarés totalement riches qui s'emmerdent et qui du coup est persuadée que si ils ne tuent pas la personne avant l'aube quand elle tire la carte de cache-cache, toute la famille va mourir. Donc ça devient en fait un survival horror et c'est un survival horror vachement fun. Et qui fait du bien parce que c'est ultra crade. C'est voilà, ça sort des films d'horreur totalement lisses qui veulent te faire croire que c'est trash, mais qui ne le montrent jamais. Là, la nana, elle est mutilée. On n'est pas comme dans Crawl. Elle se prend une balle dans la main. Elle va en chier tout du long avec sa balle dans la main. Elle est mutilée de partout. C'est dégueulasse. Elle est couverte de sang, de pisse, de merde, de crasse, de tout ce que tu veux. On a un côté très Sam Raimi dans la façon de gérer le côté ironique de la chose parce que c'est quand même extrêmement absurde. Et malgré tout, bah, t'as envie d'y croire. On est quand même dans une famille qui part dans le côté « non, en fait, on fait tous des rites sataniques, on est des gros tarés et tu sais pas si c'est vrai ou pas » et tu te dis « putain, les mecs, ils croient totalement à leur délire ». C'est complètement déjanté. Et la nana, au final, voilà, le côté Sam Raimi aussi, c'est à l'image de Ash dans Evil Dead, à l'image de, je ne sais plus le nom du personnage dans Jusqu'en Affaire, elle va commencer à être une victime de tout ça et ça va devenir une grosse badass au fur et à mesure. Bah, plus elle va se prendre coup dans la gueule, plus elle va se relever en disant « ok, plus jamais, ça suffit, je me lève contre ce truc-là et je vais tous vous éclater en fait ». Donc c'est très fun, il y a du body count de partout, il y a des idées de partout, c'est pas excessivement original mais on passe un super moment.
Est-ce qu'on va loin dans l'horreur ou est-ce que ça reste très soft ?
Là il y a un côté, il y a le côté possession, il y a le côté fantastique aussi qui s'immisce dans la réalité, même si on est juste avant des révélations qu'il y en sont ou pas, on est juste dans une famille qui est persuadée qu'ils ont conclu un pacte et qu'ils doivent absolument faire ce rituel là. Donc on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, elle non plus, de toute façon elle va juste le subir parce qu'ils veulent la sacrifier quoi qu'il arrive, sans qu'on sache réellement. Donc oui, il y a une aura irréaliste qui s'approche plus du coup de l'horreur, voilà.
Tu le conseilles ou pas ?
Mais carrément, je ne pensais pas passer un aussi bon moment. C'était marrant parce qu'il y avait une mamie devant moi qui s'est marrée tout du long, et on se marrait au même moment. Alors le public n'avait pas toujours l'air d'être très réceptif, il y a même des abrutis qui prenaient des photos pendant la séance avec leur flash, c'était insupportable. J'ai passé un super moment et je m'attendais vraiment à voir la daubasse d'horreur de la semaine comme il y en a partout. Je pense pas que ce soit un si grand film que ça, mais ça m'a fait un peu l'effet Happy Birth Dead. Je me suis éclaté devant, je pense que quand je le reverrai, je le trouverai bardé de défauts. Mais au moins, pour une première fois, c'est cool, c'est popcorn. On peut y aller entre potes pour se marrer un bon coup. C'est pas un film d'horreur qui fait excessivement peur, mais ça fait très bien le taf. Et même s'il y avait un quatrième acte qui s'amorçait très très mal, où je me disais « ah non, là il part dans un truc, ça me saoule », au final, ça relève bien le niveau et c'est fun tout du long.
Donc allez voir Wedding Nightmare si vous voulez passer un petit bon moment pour la fin de votre été, avant notre belle rentrée.
Ça fait combien de temps que tu vis dans la rue ?
Je vis pas dans la rue, je cherche une colocation.
Je crois que ça te ferait du bien d'en bosser un peu, toi, histoire de t'en remettre dans le rythme. Je rajoute la fièvre.
C'est 10 jours au boulot qui t'avait dans cet état-là ?
Ça me dérange si je reste un petit peu ? Tu vis ici, en fait ?
Oui, pareil, tous les deux.
Tu travailles ?
Ah, mais quand j'ai vraiment besoin de l'argent, je prends un petit boulot.
Dis, tu paierais pour coucher avec moi ?
Quoi ?
Non, mais si t'étais une femme.
Faut te trouver un prénom qui fasse rêver, Thomas, ça fait curé.
Andy ? Ça sonne américain ?
C'est quoi comme boulot ?
Je suis engagé dans une activité, donc j'ai pas mesuré tous les paramètres.
Ça t'ennuie si je t'appelle Maurice ?
Non.
Mais en quoi ça me concerne ?
Parce que je voudrais te proposer un partenariat.
Pourquoi moi ?
C'est parce que t'as l'air honnête.
Donc tu proposes un truc malhonnête ?
Non, je veux plus.
Non, c'est qui celle-là ? Je suis sa femme.
Je suis juste le temps de gagner un peu d'argent. Après, chacun repart de son côté.
En mieux, ça quoi ?
Un film de séducteur, Andy. Et quand on parle séduction, on parle Thierry.
Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames.
Andy, un film de Julien Veil, un premier long métrage, avec Vincent Elbaz et Alice Taglioni. Andy, les aventures de Thomas, comme le titre du film l'indique, n'est-ce pas ? Qui va se reconvertir en gigolo pour arrondir les fins de mois, pour gagner de l'argent, mais hélas, c'est pas trop son truc, du coup il va embaucher Alice Taglioni pour venir le tirer de son mauvais pas, et donc prendre l'argent, mais pas les vieilles dames.
En gros, oui, c'est à peu près ça, hein. T'as bien résumé, Thomas est SDF, Thomas est un mec qui a toujours vécu de petites magouilles.
Alors, ça me dérange un peu, je préfère que tu dises Vincent Elbaz, parce que là, je m'appelle Thomas, je me sens un peu... je me sens sale, d'un coup.
D'accord, alors, je reprends. Vincent Thomas est donc...
Salaud.
Il se retrouve dans un centre de réinsertion et du coup, il doit trouver du travail assez rapidement parce que sinon, au bout de 6 mois, on le fout dehors. Et en tapant sur une recherche internet, c'est le peu de qualité qu'il peut mettre sur un CV parce que la seule fois où il a bossé, c'était à McDo quand il avait 25 ans. C'est physique facile, sociable, voilà ce genre de choses. Et il tombe sur un site d'escort boy. Il regarde par hasard et dit « Putain, je pourrais tenter ça » quand il voit les tarifs qu'il est... dont il est capable de faire pour ses prestations. Il va se faire aider par son voisin de chambrée qui va donc lui proposer ça, sauf qu'il se rend compte d'un truc, c'est que quand il connaît pas une femme et dans le stress et compagnie, il n'arrive pas à lever sa queue. Eh ben ouais, hein, oh là là, le pauvre, il bande pas quoi. Donc du coup, il va faire une petite magouille avec Alice Taglioni et en gros, il va lui demander de se faire passer pour sa femme. Tu débarques au moment crucial, tu dis « Ah, mais je suis son mari, enfin je suis sa femme, oh gros connard, t'as fait me tromper, je te fous une gifle, on prend l'argent et on se tire. » Et ils vont se faire de la thune comme ça. Le film n'est pas très bien. Je me demande toujours le process qu'il a dû avoir. Je pense que Julien Veil, il a voulu faire un film, il savait pas trop quoi faire. On lui a dit, bon, écoute, là, de dispo, il y a que Vincent Elbaz et Alice Taglioni. Vincent Elbaz, il est pas bon, hein, c'est pas un bon acteur. Hein. Alice Taglioni, c'est un peu pareil. Ça part à grand chose dans le paysage français. Il y a plein de gens qui vont me sortir plein de films dans lesquels elle est peut-être bien, mais je suis pas spécialement d'accord. Bref, voilà. Il s'est retrouvé avec ça. Alors, il a dû se dire... qu'est-ce qui fait rigoler ? Et les clodos, ça fait rire, hein, les clodos, ouais. Oh ouais, on va faire des clodos. Qu'est-ce qui fait encore plus rire que les clodos ? Les putes ! C'est rigolo, les putes ! Non, en fait, ce film m'a fait penser, dans le process, à... je crois que c'était Just a Gigolo, le film de John Turturro, où John Turturro devenait justement gigolo parce qu'il se retrouvait au chômage à plus de 50 balais, qu'il savait pas quoi faire de sa vie, et qui avait un constat social qui était hyper intéressant. Où justement, on parle de la détresse de beaucoup de monde. On parle aussi de la détresse des femmes qui l'emploient, on parle de lui qui sait pas du tout quoi faire, qui va se révéler plutôt bon là-dedans, et qui du coup va le faire. Le film essaye de jouer un petit peu là-dessus aussi. On va avoir un panel de clientes qui vont le réclamer. C'est pas, au début, c'est pas les clientes qu'il imagine. D'ailleurs, la première cliente qu'il va, il lui dit clairement, elle est plutôt belle, parce que du coup, il s'imagine qu'il y avait que des vieilles moches qui allaient vouloir de lui. Et il se rend compte que c'est Nana qui lui dit, bah moi, je bosse beaucoup, donc j'ai pas le temps, je suis une femme seule, donc de temps en temps, bah, quand je peux, je fais appel à ça, quoi. Et le problème, c'est que tous ces portraits-là qui pourraient être intéressants ne sont que des prétextes à faire des blagues. Donc quand il voit la vieille esselée qui lui dit « Bah là, en fait, j'étais convoqué parce que mon mari est mort depuis 10 ans, on se rejoint dans cet hôtel pour refaire ça, et là, j'ai envie de revivre quelque chose, mais mon mari est un connard, donc tu vas ramper, tu vas demander pardon pour toutes les femmes, je vais te donner son prénom, et moi, je suis une grosse chienne, j'ai envie de te fouetter. » C'est que pour faire des blagues, et autant quand c'est des blagues là-dessus, bon bah le film, de toute façon, vend ça, qu'est-ce que tu veux t'attendre de mieux que ça, autant il y a des choses qui sont extrêmement malsaines. Je pense au voisin de chambrée, qui est un dépressif notoire, le mec a fait un burn-out à son boulot, il n'a pas le droit de voir ses enfants. Et on s'en sert aussi pour faire des blagues. Donc les blagues, c'est le gars qui, par exemple, demande à ce qu'il y ait du silence pendant la nuit, qui se met à pleurer dans les toilettes. C'est une blague. Les gens se marrent dans la salle. Les gens se marrent comme des crétins. c'est très gênant de rire de la dépression, comme ça, en fait. C'est très gênant de rire de situations sociales qui sont pas simples, de te faire croire que... Là, clairement, le film te dit « Oh, de toute façon, les gens, s'ils sont à la rue, c'est que c'est des branleurs qui veulent pas bosser. » Le film joue de ça.
La comédie, c'est de la tragédie qui fait rire. Est-ce que là, du coup, ça fait rire?
Moi, non, pas du tout. Il y a eu des rires dans la salle, pas énormément. Mais surtout sur des blagues extrêmement grossières, qui, du coup, je pense que c'est le genre de moment où, de toute façon, ça va te faire esquisser quelque chose. Mais... Est-ce que c'est de la tragédie? Non, même pas, quoi. En fait, c'est une comédie romantique lambda, hein, je veux dire, tu sais, enfin, l'arc principal du film, le seul truc sur lequel Julien Veil porte son intérêt, c'est, il va en gros, c'est un film d'arnaque. Je vais embaucher une nana pour faire des arnaques avec moi. Finalement, elle se sent un peu trop impliquée et elle est réellement jalouse. Ah, en fait, elle est amoureuse de moi, je vais faire un truc avec. Et on va partir ensemble.
On s'en doutait pas.
Mais voilà, je veux dire, le film ne parle que de ça. Et tout le reste, c'est un enrobage. Et du coup, un enrobage où il a essayé de rajouter du social et ça sert à rien. Dire autant mater, je sais pas, prête-moi ta main, par exemple, qui c'est exactement le même film. Au moins, c'est honnête parce que le film propose rien de plus que ça, quoi. Bah, là, j'ai trouvé que c'était enrobé dans du malsain, du faux malsain social, pas terrible. Et c'est pas drôle, quoi. Et Vincent Elbaz est mauvais, et Alice Taglioni est mauvaise. Enfin, moi, ça m'étonne pas tant que ça. Je comprends même pas pourquoi on les exploite encore. Enfin, bon.
Donc, Andy bande mou.
Ah ouais, non mais avec tout le monde bande mou, quoi, je veux dire, c'est impossible, enfin, si tu rigoles aux éclats devant ça, t'as plus d'âme, quoi.
Espérons que le prochain film soit un peu plus en forme.
On se revoit dehors, hein?
Bah bien sûr qu'on se revoit dehors.
Comment je fais pour te retrouver?
Je serai dans la nuit, hein.
Michael Vador?
Ouais, voilà, c'est ça, Michael Vador. Thomas, c'est quand tu veux ta revanche au ping-pong?
T'es encore en train de bosser celui-là, hein?
À nos futurs mariés.
Papa! Chérie, c'est qui?
Rien, chérie, c'est pour le calendrier.
À quoi, t'es pas content de m'avoir?
Eh ben, si, carrément, si. Et t'as fait tous les Michael de France? Parce qu'on est beaucoup quand même.
Bah oui.
Je me suis rangé, ils savent pas que j'ai fait de la prison avec toi, fais pas de gaffe.
J'aime tenir, hein.
Poutine, un ami de passage.
Poutine?
Poutine, Vladimir Poutine.
Vous foutez de ma gueule?
Pendant toute la semaine, nous avons été dispersés, mais au fond, il fallait ressouder le duo pour le film Inséparable. Inséparable de Varant Soudjian. J'espère que je le prononce bien, je ne sais pas vraiment. Avec Ahmed Silla et Alban Ivanov. Un film merveilleux, une comédie dans laquelle Ahmed Silla joue un escroc qui, en prison, va se faire copain avec Alban Ivanov, surnommé Poutine, parce que c'est un fan de la Russie et que c'est un gros psychopathe, on peut le dire, hein, on peut dire ça. Et bon, une fois sorti de prison, il va changer d'identité pour se faire oublier de ses créanciers et il va se faire une petite vie sympa dans une grosse boîte. Il est heureux, mais Poutine le retrouvera et veut revoir son copain. Hélas, avec lui, il amène l'ancienne vie et donc le terrible secret de la prison.
Ça a l'air limite sérieux quand je le dis comme ça. Alors, on va résumer ça rapidement. C'est l'histoire de Varant Soudjian, qui est très fan de Tais-toi de Francis Weber et de Le huitième jour de Jacob van der Bel, qui a voulu faire un film somme. Sauf que quand il a demandé des acteurs, on lui a dit « Tu peux avoir ni Depardieu, ni Daniel Auteuil. »
C'est compliqué, du coup.
Du coup, il s'est dit « Bon, bah, je vais récupérer les deux acteurs de mon film, de mon film de fin d'études dégueulasse, Walter, et je vais essayer de leur faire des rôles à la hauteur. Mais vu qu'ils savent pas les jouer, ça va être un peu compliqué. »
Alors, tu parles de Walter, j'allais en parler, justement. Oui, parce que Varant Soudjian, il avait réalisé Walter, déjà sorti cette année, en
déjà
début
cette
d'année.
Année, ouais, le mec doit être soit ils ont vraiment été tournés avec beaucoup d'écart et le mec est très lent en post-prod, soit vraiment il bosse vite.
Mais bon, il y avait peut-être plus de post-prod sur Walter, parce qu'à un moment ils font cramer le supermarché. Enfin, c'est quand même un réalisateur qui a du talent, dans le sens où quand on voit le film sur le papier, c'est pas gagnant, tu vois. Quand on te dit, alors là je parle de Walter, tu vas faire un film dans un supermarché avec les dégâts, tu te dis oh putain. Et il arrive à faire quelque chose qui tient la route.
J'accepte de te rejoindre sur Walter. je te rejoindrai pas sur celui-là. Sur Walter, oui, en effet, le film est vraiment pas très bon, on le reverra sûrement pas, mais il avait un avantage, c'est qu'il tentait des choses au niveau de sa mise en scène. Que le mec essayait de comprendre les clichés qui animent aussi le cinéma qu'il essaye de faire. Et du coup, il faisait beaucoup de références, mais en le faisant pas trop mal, en mettant sa caméra au bon endroit, en faisant des tentatives qui étaient tout à fait honorables.
Bon, là, il y a un petit contre-jour sympa au moment, juste avant une baston, parce que bon, comme ça, au moins, ça permet de ne pas voir le cascadeur très bien, on a compris. Mais ça fait son petit effet, ça fait un petit côté inquiétant dans la ruelle. Non, non, il y a des effets sur le changement de plan, enfin, le changement de niveau de plan. On passe d'un plan serré à un plan large, mais dans le même plan séquence, en fait, il y a un changement de valeur de plan sans coupure. À un moment, quand il y a un espionnage dans le bureau, quand il rentre dans le bureau le soir, il y a un plan sur la poignée de porte et puis pouf, la caméra tourne et on arrive sur le reste du bureau. Bon, alors c'est des petits trucs parsemés comme ça. Alors c'est inégal, je suis d'accord.
Je trouve ça assez dingue que tu aies pris le temps de pouvoir remarquer ça. J'ai été très très rapidement effaré, je pense, par le jeu des acteurs et je me suis dit, ces personnages, je vais pas y croire. Donc ça va me faire rire, même Alban Ivanov qui arrive à me faire rire relativement facilement, hein. Je veux dire, c'est pas l'acteur du siècle, mais un talent comique qui est pas trop mal, là il en fait 3 tonnes, alors par certaines répliques ça peut être marrant, le côté jusqu'au boutiste de Poutine justement, le côté fan de la Russie, quand le mec il se balade en survêt et qu'on lui fait « non mais là ça sort de la Russie ton truc », bah c'est rouge, c'est marrant certes, le problème c'est qu'il y a Ahmed Silla en face, Ahmed Silla je le répéterai à chaque fois que je verrai un film avec lui, putain mais qu'est-ce que vous voyez dans ce mec, pourquoi vous l'engagez? Ce mec joue mal. Je sais pas ce qu'il voit en humoriste. Il joue mal. C'est pas un acteur. Il faut arrêter de le faire jouer. C'est dégueulasse. Toutes ces scènes. Il n'y a pas une scène où le mec sonne juste. Alors on va le faire passer de « je fais des accents comiques ». On a limite l'impression que le mec il fait des grimaces et qu'il y a des fausses voix qui ont été rajoutées par-dessus tellement c'est pas crédible.
Et Alban Ivanov qui reste impassible dehors.
Oui, mais Alban Ivanov qui en plus lui dit « t'es pas drôle ». Ça devait être des extraits de making-of qui ont été mis en plein milieu. Oh, les passages où il est censé être amoureux de sa nana, lui expliquer la vérité avec des gros violons, le mec est pas crédible une seule seconde, t'as l'impression qu'il est encore en train de l'embobiner alors qu'il lui dit la vérité tellement il est pas bon.
Effectivement, tous les passages un peu sentimentaux, c'est très compliqué. Ahmed Silla, bon, c'est compliqué aussi. Mais derrière, il y a le personnage d'Alban Ivanov. Moi, enfin, il y a des vannes qui m'ont fait rêver. Le Dark Vador, ça m'a surpris. Ça m'a énormément surpris, je sais pas toi.
Alors, pas le fait qu'ils disent Dark Vador, mais la vanne qui est associée. En effet, elle sort de nulle part et elle passait. Mais c'est ça le problème, c'est que ça sort de nulle part et que du coup, le côté « je te ramène une arme démilitarisée, mais en fait, j'ai juste bloqué la goupille avec un bout de scotch et je te la retire, tiens, c'est une vraie arme ». Et là, t'es sérieux, voilà. Et là, ça prouve que le personnage est complètement taré, que ça peut partir en couille. Et au final, je pense que j'aurais aimé voir un film qui part constamment en couille tout le temps. Un film qui sort sur la retenue, en t'offrant 2-3 moments par-ci par-là où bah, le personnage de Poutine, vu que c'est le seul dont ils exploitent les effets, peut partir en couille.
Oui, parce que ce mec-là est magique. Et en plus, c'est un gars qui est très susceptible, qui est un peu bizarre parce qu'il est porté notamment sur la politesse. Et à un moment du film, il réalise un de mes fantasmes, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui passe, qui écoute de la musique de merde, les vitres grandes ouvertes. Et là, il y a Alban Ivanov qui s'approche de sa bagnole, qui le chope par la fenêtre, qui le sort et qui lui marave la gueule. Il chope un plateau, il le finit par terre. Enfin, tu vois, pour tous les mecs qui passent à écouter leur musique de merde là sur leur trottinette électrique avec leur baffle à la con là, ou dans les parcs là, les ancêtres sans fil là, les mecs, putain, j'ai envie de vous tuer. C'est un personnage qui n'a pas de limite et c'est dommage qu'on le laisse de côté, justement.
Ah oui, bah non, au final, si, c'est ça le problème, c'est qu'il y a constamment des limites. Bah, des limites qui sont mises autour de lui et qui lui sont pas propres. Alors que oui, en effet, il aurait fallu juste dévoiler l'amitié entre les deux. C'est pour ça que je parlais de tais-toi. Parce qu'il y a le côté, bah, justement, enfin, avec le personnage de Jean Reno qui se tape ce Quentin de Montargis qui le suit partout, qui commence à faire toutes les conneries avec. Et ça fonctionne parce que, bah, justement, le mec est tout le temps là et le mec est tout le temps dans la surenchère. Là, peut-être qu'il y a un peu de retenue ou quoi aurait été bien, mais le problème c'est que c'est constamment dans la retenue et de temps en temps, pof, allez, tous les quarts d'heure, ça pète, ça fait rire et on passe à autre chose. C'est pas exploité quoi, il y a un personnage là qui est potentiellement intéressant et qui est pas exploité.
Donc un film ben, inégal, hélas, et sur la retenue, trop sur la retenue, c'est dommage. Inséparable, tu vois, tu le condamnes en bloc.
Wow. Bah ouais, hein. J'ai pas envie de revoir ça, je sais pas si j'ai envie de revoir un film de ce mec. Là, vraiment, très honnêtement, je me dis une fois de plus, ça fait partie de ces bassesses de comédie buddy movie dégueulasse. Je sais pas, pour moi, ça à part référencer le film de buddy movie et pas le faire bien.
Alors, on a les classiques du buddy movie, mais moi, franchement, je partais vraiment pas gagnant en allant voir ce film. Et je trouve que, quand même, vu de là où il partait, pareil, sur le papier, c'était pas très bon. Il relève le niveau. C'était la même chose avec Walter. Moi, je trouve que ce mec-là... bon, alors, il faudrait peut-être qu'il ait de meilleurs acteurs, peut-être, pour voir ce qu'il y a sous le coude. Après, il était au scénar aussi. Donc ça, c'est un peu plus inquiétant. J'ai envie de voir la suite. Bon, par contre, il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus exigeant. Ou alors qu'il se mette avec un truc qui pourrait... avec lequel il pourrait lâcher son potentiel, quoi. Genre, encore un film de genre, pourquoi pas, mais avec des acteurs qui tiennent la route ou autre chose, je sais pas. C'est, parce que c'était pas juste des téléfilms qu'on a vus, quoi. Donc, je pense que ce mec, il est capable de faire du cinoche, mais il faut... il faut quelque chose pour s'exprimer. Enfin, il faut enlever les barrières, quoi.
Peut-être, mais de toute façon, je sais ce que je dis, mais je viendrai aussi au prochain, de toute façon, mais j'y crois pas non plus, hein.
Après, c'est sûr que si on le cantonne aux comédies avec Ahmed Silla et les dégâts, ça va être compliqué, quoi. Inséparable, nous nous quittons là-dessus. Hélas. Une semaine qui se termine, mon cher Thierry.
C'est l'une des rares fois où je me dis, ouais, en fait, c'est pas plus mal. C'est triste, hein, je suis vraiment pas fanatique de cette... Non, mais moi, on va être clair, je suis vraiment pas fan de cette semaine cinéma. Là, je veux dire... Je le précise, dites-vous que là je viens d'enchaîner 3 films.
Pas n'importe quel film.
Pas n'importe quel film, tu vois. Je suis allé voir Andy, ensuite on est allé voir Le Dindon, qu'on sortira pas tout de suite, mais quand vous écouterez Le Dindon, vous comprendrez, hein, on fait un spoiler, youhou, c'était pas très bien. Et là on sort de celui-là. Je viens de me taper 3 films, bon, j'y allais pas gagnant de toute manière. Mais bordel, quoi, et j'ai l'impression que c'est quasiment les. Enfin, en fait, le problème, c'est quand tu finis là-dessus avec 3 films à la suite, t'as l'impression que c'est tout ce dont on va parler cette semaine. Je sais qu'il y a eu d'autres trucs, hein, ça va. Mais là, on enregistre peut-être pas cette conclusion au meilleur moment.
Ah, t'es fatigué en fin de semaine.
Je suis fatigué.
Et demain, tu prends le train, tu vas à Deauville.
Voilà.
Donc là, au moment où vous écoutez l'épisode, si vous l'écoutez à sa sortie, en fait, ben, Thierry sera en train de s'enfermer pour voir des films à Deauville. On espère meilleur. On a été aussi très dispersés pendant la semaine, donc bon, ceci explique aussi cela. Tu n'as pas vu les bons films.
Bah, je dis ça, j'ai vu Fête de Famille. J'ai beaucoup aimé Fête de Famille.
Ah,
ça
ben
fait
voilà.
Quand même... Non, voilà, il y a quand même des choses sympas.
Espérons qu'on aura mieux que ça la semaine prochaine.
Est-ce qu'il y a un film avec Vincent Elbaz et Annette Silla ? Je veux dire, histoire qu'on évacue tous les démons d'un coup.
Non. Ah, il y a un film avec Annette Silla.
Ah, cool. Je suis ravi.
Bah, mais tu l'as vu, ça va, c'est bon.
Ah mince. Dommage. Vivement le prochain.
C'était Certain Lama Show. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram... ainsi que sur tous les bons agrégateurs de podcasts. De podcasts.
Putain, tu l'as dit, quoi.
Le podcast.
Toi aussi, t'as imité ta grand-mère.
C'est ça. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Aucun.
À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous. Ah mais d'ailleurs, attends, il faut quand même qu'on précise ça. On a partagé ça sur Twitter, je sais pas si tu l'as partagé de ton côté, mais la semaine dernière, il y a eu un épisode de diffusé où nous avons été invités. On a été invités dans le podcast Jeonbae, qui est un podcast sur la Corée, qui nous a invités pour parler de Park Chan-wook. Nous avons donc parlé de la trilogie de la vengeance et de Mademoiselle. Le premier segment de l'émission est sorti sur Sympathy for Mr. Vengeance. Et normalement, à l'heure où vous écoutez cet épisode, il y a la deuxième partie sur Oldboy qui est sortie.